Après 20 ans comme avocate à la Défense, 19 ans comme juge à la Cour supérieure du Québec et ayant démontré un engagement constant auprès de l'ABC et du Barreau du Québec, particulièrement en matière d'équité, de diversité et d'inclusion, on voulait savoir comment allait Madame la juge Sophie Bourque, celle qui a eu un impact si positif sur la profession juridique ces dernières années. Vous, ça va bien?
Ça va, moi je suis à la retraite.
Oui, c'est ça. Moi je me souviens, la dernière fois qu'on avait parlé, c'était avec les autres membres de la Bertha Wilson Task Force, puis vous disiez « OK, ça s'en vient la retraite ». Donc le voilà maintenant. Depuis combien de temps?
31 décembre.
Yahoo!
yahoo, certain. Je me sens comme une petite jeune qui se demande ce qu'elle va faire dans la vie.
Oui, ben là, ben c'est ça que j'allais dire, c'est comme un monde des possibles hein, qui s'ouvre.
Tout à fait, tout est possible. Tout est possible, c'est comme trop de possibles.
Oui, c'est ça.
Je sais pas quoi faire. Il y a trop d'affaires que je veux faire, je veux tout faire.
Ah, c'est clair, mais c'est trop bien. Ça. Vous vous sentez bien, somme toute, ça se passe bien, justement.
Oui. À part un accident de ski samedi dernier, je me suis fait une entorse au genou, c'est pas grave. Tant que c'est rien que ça. J'ai fait un petit tour de traîneau pour la première fois de ma vie.
Ah, ça, c'est toujours agréable. En descente, on sent comme une...
Ouais. C'est ça.
Ouais.
Vous écoutez Juriste branché, présenté par l'Association du Barreau canadien.
Bonjour, je m'appelle Julia Petro-Provencher. Bienvenue à Juriste branché. Notre invitée aujourd'hui est l'honorable Sophie Bourque, juge de la Cour supérieure du Québec, tout récemment retraitée, et manifestement, ça lui va bien la retraite, mis à part cette entorse.
J'ai écouté les épisodes de podcast, là, c'est vraiment bien.
Oui.
Oui.
Ah ouais. Oui.
Non, mais c'est le fun, puis le monde que vous êtes allé chercher, puis le lien entre le passé puis l'avenir. Vous avez vraiment fait le bel job. Vraiment.
Quel grand éloge venant d'une personne si impressionnante et distinguée, mais à la fois si chaleureuse et authentique. C'est la deuxième fois pour moi que j'ai le plaisir de discuter avec Madame la juge Sophie Bourque. La première fois étant l'année dernière, lors des enregistrements pour notre balado anglais « The Every Lawyer », fêtant le 30e anniversaire du rapport de l'ABC, les Assises, « Touchstones for Change », un jalon de l'EDI sorti en 1993, et développé par le groupe de travail de l'ABC sur l'égalité des genres de Bertha Wilson, dont Madame la juge Sophie Bourque, jeune avocate en défense à l'époque, était l'unique membre québécoise et francophone. Ce rapport, les Assises, était et est toujours remarquable. Alors que le rapport visait ultimement à créer des grands changements au sein de la profession juridique et de la société en général, ses recommandations concrètes permettaient à la profession d'y aller pas à pas et de s'adapter progressivement. Alors que Madame Bertha Wilson était de l'avis que 30 ans, ce n'est pas long pour un changement sociétal, voici ma conversation avec l'honorable Sophie Bourque sur le long chemin parcouru entre le début du groupe de travail jusqu'à aujourd'hui et ce qu'il nous reste à faire.
Je me rappelle pas si j'en avais parlé du rapport de la firme McKinsey. K-I-N-S-E-Y, McKinsey. Ils ont fait un rapport sur les 500 plus grandes compagnies sur la diversité. Puis, ils ont démontré que au niveau des... Quand les jeunes arrivent en entreprise, ça rentre 50-50. Après ça, première promotion, il y a plus d'hommes de femmes qui ont de la promotion. Puis, au dernier échelon de la promotion, on est rendu à 75% d'hommes. Fait que la profession juridique, elle fait juste suivre elle suit ce qui se passe dans la société, là, c'est la même chose.
Oui, oui, c'est pas différente.
Non, elle est pas différente, puis ça explique aussi un peu que je me suis dit, ah, regardons, quand c'est sorti il y a deux ans à peu près, puis je me suis dit, ah, ben les femmes, particulièrement en grand cabinet, parce que ça, c'est les 500 plus grandes entreprises qui généralement font affaire avec des grands cabinets, ben elles perdent leur source de référé aussi. Elles perdent leur contact pour avoir des nouveaux clients parce qu'il n'y en a plus de femmes dans les échelons supérieurs.
Oui, c'est ça aussi.
Ben oui, fait que ça va être la filière. Les femmes sont remplacées en entreprise par des gars aux échelons supérieurs. Fait que là, c'est sûr qu'on fonctionne par les biais d'association. Là, on aime travailler avec des gens qui nous ressemblent, qui sont comme nous. Et puis ça, c'est très insidieux, mais c'est fort.
Non, vraiment. Mais c'est vrai, en fait.
C'est très fort. En tout cas,
non, mais c'est fort. Puis c'est vrai, ça finit que les femmes se retrouvent isolées, finalement, au plus haut échelon.
Oui, ils se retrouvent tout seuls au plus haut échelon. Mais je trouve ce qu'il y a d'intéressant, par exemple, avec cette situation-là, c'est moi, je me rappelle à l'époque, on se faisait dire, ah oui, mais là, vous êtes de plus en plus nombreuses. Fait que là, ça va finir tout par se régler par le nombre. Mais il y était les hommes, généralement, qui tenaient ce discours-là, étaient vraiment convaincus de ça, là. Quand vous allez être 50-50 majoritaire, vous n'aurez plus de problème. Non, pas sûr de ça. On n'est pas sûr de ça.
Alors, non, la rétention.
Ouais, la prédiction s'est avérée. J'ai regardé vos questions.
Oui. Et puis?
Ben, c'est très bien.
On se lance.
fait que oui, on peut se lancer, là.
Est-ce qu'il y avait des questions que vous auriez voulu rajouter?
Oh, j'oserais pas.
Ben oui, voyons. Non, mais avec la discussion, de toute façon, ça va y aller naturellement. Mais parce que le but aussi, c'était un peu d'avoir la version française, québécoise, de tout ça qu'on a cruellement pas, de façon très triste. Donc là, on voulait vous avoir pour en parler, justement, pour nos collègues qui sont plus à l'aise avec le français. Donc, justement, avec commencer avec le commencement, c'est-à-dire... comment et pourquoi le groupe de travail de Bertha Wilson, ce qu'on a appelé la Bertha Wilson Task Force, avait été créé. Puis, c'était quoi les objectifs derrière ce groupe-là? Et aussi, je trouve ça très intéressant quand vous racontez un peu comment vous vous êtes retrouvés dans ce groupe de travail-là. Donc, la parole est à vous.
Merci. À l'époque, le groupe de travail a commencé ses travaux en 91. Déposer le rapport en 93. Et ce qui est arrivé, c'est que ce qui a amené à la création du groupe, la mise sur pied du groupe de travail, c'est qu'il y avait des femmes à l'ABC qui poussaient pour qu'il y ait une étude qui soit faite. Il y avait qui soit faite sur la place des femmes dans la communauté juridique, dans la profession juridique. Il y avait certaines corporations professionnelles, certains barreaux qui commençaient à s'intéresser à ces questions-là, mais il n'y avait rien au niveau national. Et c'est comme ça que des femmes à l'intérieur de l'ABC ont poussé pour que l'ABC se préoccupe de cette situation-là d'une façon pan-nationale. Considérant que c'était la seule organisation qui était peut-être à même, à travers son mandat, de faire ça. Alors, l'ABC a créé le groupe de travail et ce qu'on m'a dit, parce que moi, évidemment, je n'étais pas là, c'est que c'est sous la présidence du président Chapman qu'a été créé le groupe de travail. Et la petite histoire voudrait que Mike Chapman s'est retrouvé à un souper auquel participait Bertha Wilson quelques semaines après sa retraite. Alors, il lui a comme sauté dessus avant que... Tout le monde lui propose des millions d'affaires à travers le Canada. Et il lui a proposé de présider ce groupe de travail-là. On va se le dire, là, le fait que ce soit Bertha Wilson qui ait présidé le groupe de travail et que le groupe de travail et le rapport portent son nom en quelque sorte, ça a quand même été majeur. Ça a été majeur au niveau de la difficile
acceptation.
Ben, je pense souvent en anglais quand je pense au tâche.
Ben, je comprends.
Je pense souvent en anglais dans ma tête parce que ça se passait en anglais.
C'est difficile, faut comme tu traduire.
Oui, alors c'est difficile des fois de passer d'une place à l'autre.
Oui.
Alors ça a définitivement beaucoup aidé, puis ça a aidé aussi à l'orientation des travaux. Moi, je suis arrivée sur ce groupe de travail-là Ben, premièrement, évidemment, au barreau canadien, le barreau canadien est toujours soucieux de la représentativité, de la représentation régionale et provinciale. Le Québec est évidemment un incontournable, là. C'est bien difficile de faire un groupe de travail sans représentant du Québec. À l'époque, j'étais déjà active à l'ABC, j'étais à la conférence des jeunes avocats et notaires, j'étais active dans plusieurs organisations professionnelles, j'étais active au barreau canadien, j'étais active au barreau du Québec, j'étais sur le comité sur les femmes dans la profession, j'étais active au Jeune Barreau de Montréal, qui à l'époque s'appelait l'Association du Jeune Barreau de Montréal, où j'avais poussé pour la première étude sur la conciliation travail-famille au Canada, qui a été faite en 1987 par le Conference Board, quand même.
On était actives, là, je vois ça.
On était actives, moi, je pense que j'étais présidente du comité femmes à la maternelle.
Ah, yes!
J'avais des positions féministes affichées.
Ouais, OK.
À une époque où c'était pas nécessairement populaire de le faire non plus. Et au barreau, au jeune barreau, on travaillait très fort aussi à mettre sur pied une garderie en milieu de travail, qui finalement n'a jamais eu le jour, mais le jeune barreau avait quand même obtenu un permis du gouvernement pour mettre sur pied une garderie, un CPE. Un centre de la petite enfance. Oui, mais en tout cas, toutes sortes de raisons. Alors, je me suis un petit peu retrouvée là, comme ça, puis le président Chapman m'a appelé au bureau à un moment donné, puis il m'a offert ça, puis j'ai dit oui.
Ouais, mais elle fait pas trop là comme ça.
Pas non à une offre.
Dans le sens qu'il c'était pas trop là comme ça, il y avait quand même déjà une grande implication. Clairement, on se disait féministe, on pouvait penser peut-être à Sophie Bourque, là, dans le monde légal.
Oui, puis il y avait aussi, oui, peut-être dans le monde légal, et il y a aussi le fait que moi, j'étais dans un petit cabinet.
Ouais, OK.
Et le task force voulait, puis ça devait déjà être, ça prenait également une espèce de représentativité des différents secteurs de la profession juridique. Alors, il y a les petits cabinets, il y a les grands cabinets, il y a la magistrature, il y a les in-house counsel, les avocats en je dis in-house counsel parce que je pense en anglais à cause, je m'en excuserai.
Ah ouais, c'est correct, oui, les avocats, dans les grandes firmes.
Alors, je rencontrais quand même pas mal d'éléments là, qui faisaient qu'on m'a contacté pour faire partie du task force.
Et comment c'était? Parce que le task force, justement, était en anglais. Donc, comment c'était travailler en anglais?
Très difficile! Parce qu'à l'époque, je ne parlais pas beaucoup anglais. Je parlais anglais, mais j'étais... Disons que c'était plus à un niveau de functioning English qu'on appellerait. Et les travaux du task force, c'était souvent des fins de semaine, c'était de longues fins de semaine, on travaillait tard. Puis n'importe qui travaille dans une langue seconde sait qu'à un moment donné, notre esprit se fatigue beaucoup. Et ce qui est difficile aussi quand tu es dans un groupe qui parle une langue qui n'est pas ta langue, c'est de comprendre toutes les nuances de l'autre langue. Et autant le français, des fois on a l'impression contraire, mais le français est une langue qui exprime quand même clairement ce qu'elle veut dire. Alors, qu'en anglais, on utilise souvent des euphémismes ou des métaphores pour exprimer des idées. Et ça prend un haut niveau pour comprendre ces traits culturels-là d'une langue.
C'est tellement vrai. Mm-hmm.
Oui, alors je disais, puis la fatigue aidant à la fin d'une journée, moi je pense que mon niveau d'anglais devait tomber à 20%, là.
Ça dans le franglais, là.
Oui, c'est ça. Je me fiais beaucoup à ce qui était écrit. Alors c'est toujours plus facile de lire. Puis avec le temps, bien évidemment, j'ai développé mon anglais. Moi, j'ai appris mon anglais au task force. À toute fin pratique. Oui, j'ai pas mal appris. Mais c'est sûr que ça a été une difficulté supplémentaire, là. Mais ceci dit, tout le monde était bien compréhensif. Puis des fois, je leur disais « Wow, ralentissez! »
C'est bon, ça, on aime ça. Puis ils ont pu pratiquer aussi, j'imagine, leur français.
Le français, mais ils étaient tous conscients. Tout le monde était bien conscient que moi, je faisais comme des efforts supplémentaires. Ça me demandait un effort supplémentaire parce que c'est en anglais.
Oui, c'est ça. Ah, ben non, c'est quand même super intéressant. Puis on est très contents que ça ait été vous, finalement, que ce soit retrouvé sur la task force parce que, justement, une avocate féministe, et on avait besoin de ça, j'imagine. En fait, j'imagine les membres de la task force en général, est-ce que c'était toutes des personnes qui justement, avaient travaillé pour le droit des femmes, étaient déjà très ancrées dans le féminisme?
C'était, ben, premièrement, il n'y avait pas que des femmes, hein, sur le task force qu'on était. Il y avait, bon, évidemment, Mme Wilson. Je suis pas certaine que Mme Wilson se définissait comme une féministe. Mais là, j'ai pas lu tout ce qui a été écrit sur Mme Wilson, là. Par contre, elle était particulièrement consciente de la position des femmes et des questions de discrimination. Elle était très sensible à ça. Moi, ce qui m'a, la première chose qui m'a frappée chez Mme Wilson, c'était sa capacité d'écoute. Et ça, je pense que ça venait tant de dispositions personnelles que de son expérience à la magistrature. Et parce que il y a une différence entre entendre et écouter. Entendre, c'est un phénomène physique. C'est ce qui rentre dans ton oreille. Et écouter, c'est un phénomène cognitif. C'est vraiment de porter attention à ce qui rentre dans ton oreille pour le comprendre. Et le processus intellectuel du jugement, que je comprends mieux maintenant après avoir passé 19 ans comme juge, c'est que de l'information vient la compréhension et de la compréhension vient le jugement. Et elle avait, on dirait qu'on la voyait écouter. Elle, c'était pas Mme Wilson qui interrompait personne. Par contre, nous autres, là, la gang du Task Force, là, on pouvait s'interrompre. Oui. Mais Mme Wilson, elle est assise au bout de la table. Elle écoutait. Elle prenait des notes dans un petit cahier, des petits cahiers qu'on achetait dans le temps, là, dans le quartier chinois, là, qui étaient des petits cahiers noirs, rayés bleu pâle avec des petits dessins de dragons dans les coins, là, puis des petits carrés rouges, des petits triangles rouges au coin, là. Elle prenait des notes là-dedans. Et à un moment donné, quand nous autres, on avait fini de s'énerver, là, Mme Wilson, elle résumait le chaos qu'on venait d'exprimer finalement et amenait la réflexion encore plus loin. Elle faisait comme une synthèse de ce qu'on avait dit et elle amenait ça encore plus loin. Alors, c'était, pour moi, là, c'était vraiment, là, c'était mon premier cours, mes premiers cours d'écoute efficace. Je dis, on la voyait écouter, là, c'est la meilleure expression que je pense que je peux avoir pour ça. Puis autour de la table, il y avait John Hagan, qui est un sociologue, qui est un professeur. Il y avait Alec Robertson, qui est un avocat de grand cabinet de Vancouver. Il y avait moi, il y avait Patricia Bloxham, qui était une avocate de droit de la famille de Calgary. Il y avait Daphné Dumont, qui était une avocate de Charlottetown, de petits cabinets aussi. Il y avait éventuellement, c'est ajouté au task force, Sharon McIver, une docteure en droit d'origine autochtone, et Connie Spark, qui était juge en Nouvelle-Écosse, qui est une des premières juges noires au Canada, là, je pense. Et l'addition des deux membres du task force est venue, c'était, il y avait le task force original, là, il y avait Pat, Daphné, moi, Alec, John, il me semble, si je ne me trompe pas. C'est venu qu'à un moment donné, dans des rencontres qu'on a faites avec différents groupes à travers le Canada, on s'est rendu compte qu'il manquait du monde autour de la table du task force pour que le task force soit représentatif et pour qu'on puisse avoir une vision puis une écoute qui était plus globale puis qui était plus juste et réaliste de la situation des femmes, dans la profession juridique.
Donc, enfin, plus de diversité autour de la table.
Plus de diversité, oui. On commençait à dire le mot diversité.
Oui, OK, ouais, c'est pas nécessairement.
On était vraiment. C'était pas. Non, de v'là 30 ans, là, c'est quand même v'là 30 ans, là. Je veux dire, puis on a eu le task force, on a vraiment eu un choc quand on a rencontré, entre autres, l'association des avocates noires à Toronto. Je me rappelle pas du nom exact du titre de l'association, je pense que c'est une association qui existe encore, à Toronto, qu'on nous a dit, vous les femmes blanches, vous luttez contre un plafond de verre, mais nous les femmes noires, on essaye de rentrer, mais on fait face à une porte de fer. On peut même pas rentrer dans la profession juridique. Puis là, on s'est regardé, puis on regardait qui on était, le Task Force, puis on s'est dit, tabarouette, okay. C'est un petit peu trop blanc, notre affaire, là, je veux dire. Alors, on n'a pas, le Task Force, en même temps, n'a pas résisté à ça, là. Et n'a pas tassé ça, mais ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment nouveau.
Hey, c'est ça qui est bien.
Mm-hmm. Parce que, premièrement, de parler de la discrimination ou de la place des femmes dans la profession juridique, c'était déjà relativement nouveau. Alors, ajouter d'autres réalités de discrimination, même pour des femmes, c'était pas encore nécessairement évident.
Non, c'est clair. Oui.
Mais le Task Force n'a pas du tout résisté à ça. Ça nous est venu, là. Ça a été comme... on s'est dit, il faut que... Bon, là, il y a eu toutes sortes de discussions à l'interne parce qu'il y a des questions de budget, il y a des ci, il y a des ça. Et le Task Force devait surtout financer. Ça a été le premier groupe de travail au Barreau canadien qui avait comme condition de s'autofinancer. Le Barreau canadien rentrait, oui. Alors, il a fallu faire des levées de fonds, il a fallu faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour financer le Task Force. Toutes sortes d'histoires extraordinaires sur le financement du Task Force. On pourrait en parler pendant des heures. Puis des femmes qui se sont levées pour financer le groupe de travail. Mais en tout cas, toujours est-il que le Task Force a élargi ses horizons pour finalement lancer la balle de la diversité, si on veut, dans la profession, parce qu'on s'est rendu compte aussi très rapidement que on pouvait pas produire un rapport qui portait également sur le racisme systémique, même si on l'a finalement comme documenté.
Ben oui, carrément.
En quelque sorte, on a mis la question sur la table parce qu'on n'a pas l'espace, on n'a pas le temps, on ne peut pas bien le faire. Et on ne voulait surtout pas le faire mal. Mal faire cette... Il a causé plus de tort que de bien. C'est pour ça qu'il y a eu un task force sur le racisme dans la profession par la suite, au Barreau canadien.
Ah oui?
Après ça, sauf erreur de ma part. Oui, après ça, il y a eu un groupe de travail sur le racisme dans la profession. Sauf erreur de ma part, c'est une recommandation, une des recommandations du rapport Wilson.
Mais ça, c'est un bon exemple quand même aussi. Vous avez quand même mis la table, vous en avez parlé, puis après, c'est peut-être pas au task force de pouvoir non plus en plus toucher à ça. Donc, il fallait avoir un nouveau task force, nouvel angle. Donc, c'est quand même un succès là aussi en soi là, qu'il y a eu cette suite-là. Puis aussi, la réponse du task force aussi, qui est très, très positive à se remettre en doute, en fait, puis à dire, ah ouais, OK, si on veut vraiment faire quelque chose de bon et de complet, on n'a pas le choix. Et ce, même malgré les questions budgétaires. Donc, je trouve que c'est juste ça, c'est très beau, puis c'est hyper intéressant aussi, et je trouve très inspirant. Puis en fait, ça m'amène un peu aussi à, en fait, parce que c'est le terme maintenant qu'on utilise, là, c'est l'intersectionnalité, qui est un terme très populaire de nos jours, et parfois utilisé, je pense, juste comme un buzzword, là, un mot qu'on utilise.
Un buzzword, ouais.
Ouais, c'est ça, juste pour dire qu'on le fait. Mais clairement, tu sais, aussi maintenant, j'ai l'impression que le rapport Les Assises, ça a été aussi une espèce de... Tu sais, maintenant, on parle de toute l'équité, diversité, inclusion, et on passe, il y a beaucoup de cabinets, là, qui ont une politique, ils font venir des gens qui vont faire une étude de à quel point les politiques EDI sont là ou pas, puis après ça, ils vont dire qu'ils l'ont fait, puis voilà. Mais en fait, j'aimerais savoir un peu, tu sais, avec votre expérience de la task force, avec votre expérience comme juge, avec votre expérience dans la profession, pourquoi est-ce que vous y avez un peu touché, mais pourquoi est-ce que vous considérez que justement c'est important de considérer, bon, l'intersectionnalité, donc les différentes formes de pression, mais aussi, bon, d'avoir un propos antiraciste, etc., pour favoriser justement cette équité, diversité et inclusion au sein de la profession.
Mais c'est pas juste important de le considérer, je pense que c'est surtout important de s'y attaquer. Je pense que toute forme de discussion, toute forme, chaque fois qu'on met la question sur la table, c'est important. Et puis, tant qu'il va y avoir des injustices, il faut les combattre. C'est aussi, on est une profession juridique. On est une profession qui est censée être vouée à la justice. Comment peut-on fermer les yeux face à des injustices qui existent dans notre profession? Je veux dire, c'est comme, pour moi, c'est comme antinomique. Tu peux pas tolérer la discrimination dans le milieu juridique. Si le milieu juridique tolère la discrimination, mon Dieu, quel milieu la tolérera pas? Je veux dire, quel milieu est mieux équipé pour lutter contre la discrimination et les injustices que le milieu juridique qui possède quand même la formation intellectuelle et les ressources? On est quand même un milieu privilégié, là. Tous les juristes ne sont pas privilégiés, là. Je veux dire, c'est pas vrai que tous les juristes sont des juristes de grands cabinets. Les grands cabinets représentent un pouvoir économique dans la profession, d'où leur grande influence et d'où la raison pour laquelle on se retourne souvent vers les grands cabinets et en leur demandant souvent d'être, de se comporter en leader, de se comporter en de faire des exemples. Est-ce que la profession réussit au niveau de la lutte à la discrimination? C'est sûr, pas tout à fait, parce qu'on en parle encore. Donc, il y en a encore. Moi, je me rappelle de ce qui m'avait frappé pendant le Task Force, quand on parlait à des femmes qui vivaient ce qu'on appelait à l'époque la double discrimination. Là. D'ailleurs, je pense que dans les Terms of Reference dans le mandat du Task Force, on parle justement de se pencher sur la discrimination multiple. Dans les termes de référence, même si à l'époque, ce qui était comme ce qu'on entendait plus, c'était double discrimination. Mais ce qui avait été, on a parlé de multiples. Alors déjà, il y avait comme une espèce de petit instinct de dire ça s'arrêtera pas de la double discrimination. Puis l'intersectionnalité, je pense que ce mot-là. Qui vient de l'évolution de la réflexion puis des luttes contre la discrimination, je pense que ça exprime encore mieux que double ou multiple discrimination l'interaction entre ces différentes formes de discrimination-là. C'est pas juste qu'une s'additionne à l'autre, c'est qu'une intervient sur l'autre, multiplie l'autre. Mais je me rappelle de ce qui m'avait frappé, c'est que pour les femmes racisées, la pire forme de discrimination, c'était pas la discrimination sexuelle, c'était la discrimination raciale. Celle qu'elles identifiaient comme étant la plus dure, la plus maligne, celle qui causait le plus de tort, c'était la discrimination raciale. Ce qui fait que tu peux pas faire autrement que prendre conscience que quand tu es une femme blanche, donc que tu as une position privilégiée. Tu es dans une position privilégiée par rapport aux femmes racisées dans la profession. Puis, v'là 30 ans, il y en avait quand même pas beaucoup, là. Je veux dire, v'là 30 ans, moi, j'ai été nommée juge en 2005. Les 10 années précédentes, j'ai enseigné à l'École du Barreau. Et quand j'ai commencé à enseigner, donc, en 95, ça, c'est pas longtemps après le rapport du Task Force, il y avait vraiment pas beaucoup d'étudiants racisés dans les classes. C'était encore majoritairement, c'était, je sais pas moi, 35 % de femmes, presque toutes blanches, puis 65 % d'hommes et presque tout blanc. Et je me rappelle que c'est vraiment à la fin de ces 10 ans-là qu'on a commencé dans les classes à avoir des étudiants racisés. Alors, c'est récent, là. Et je pense qu'il y avait, il y a peut-être eu une petite résistance du côté des femmes, qui ont peut-être eu peur comme femmes que de si trop, qui trop embrassent mal étreint, comme dit le vieux dicton de dire, ben là, si on s'éparpille dans trop de luttes, on n'arrivera à rien. Ils ont peut-être une peur comme d'une espèce de compétition possible mais il y a quand même du côté des femmes, il y a eu une petite, je dis pas une grosse, mais une petite résistance. Résistance, mais appréhension face à cette situation-là. À l'émergence puis à la réflexion sur les formes de discrimination multiple qu'on appelle maintenant l'intersectionnalité.
Mais c'est super intéressant. Vraiment, vraiment.
Alors, ben ça, c'est ma petite interprétation à Saint-Saëns, comme je dis. Là. Ça, c'est juste... mais ceci dit, je pense que maintenant, ça a été surmonté. Là. Je pense que ça, c'est une espèce de petite étape là, à travers laquelle le mouvement des femmes dans la profession a réussi à surmonter cette petite crainte-là.
Ben oui, non, mais vraiment. Mais c'est clair. Mais je pense aussi, par contre, ça reste, c'est quand je faisais les entretiens avec différentes femmes, justement, l'année dernière, ça a été surmonté, mais je pense qu'on a encore souvent, entend moi-même aussi, femmes blanches qui proviennent d'un milieu privilégié dans mon cas, c'est des angles morts parfois, je pense, qu'on oublie, puis qu'on doit toujours se remettre dans ces positions-là, puis se dire « Ah ouais, moi, je pense ça pour acquis, même dans ma profession, dans les avantages que j'ai eus. » Puis on les oublie, donc c'est pas tant qu'une résistance, mais juste des fois, je pense qu'on peut les oublier. Donc, c'est toujours intéressant d'y revenir, mais je dois dire qu'il y a eu le mot « discrimination multiple ». Déjà, tu sais, on parle de quoi à la professeure Kimberly Crenshaw, ça a été... 89, qu'elle en parlait. Là, on était quoi, en 93? Qu'on parlait. Fait que c'est quand même ça. Les gens qui ont écrit le mandat de la Task Force, ils avaient pensé quand même. Donc, c'est super bien.
Oui, ça a été écrit quand même par... ça a été évidemment beaucoup discuté à l'interne, mais ça n'a pas été... oh non, on parle de double discrimination.
Ah yes, OK.
Oui, je lis ici le rapport. Là. Ça dit « Eliminating the double discrimination suffered by women lawyers from minority and disadvantaged groups ». Encouraging women lawyers to remain in the practice of law. Ça, c'est encore un problème.
Ah, donc, encore la rétention dont on parlait, ou en tout cas, ça aussi, c'était là.
Oui,
okay.
C'est dans les terms of reference, là, parce que j'ai une version en anglais devant moi. Faire la promotion de l'avancement des femmes dans la profession. Faire la promotion de l'égalité dans les méthodes d'embauche.
Ouais, les fameux biais.
Rendre disponibles des garderies en milieu de travail dans les cabinets, les universités, les gouvernements, les corporations. Rendre déductibles les dépenses pour garde d'enfants. On parlait évidemment de la rémunération puis de la double. Ben, fait qu'on a mis double. Je pensais qu'on avait dit multiple, mais je pense que c'est parce que plus tard, dans le rapport, on parle de multiple discrimination. Ça, c'est les terms of reference ont été élaborés évidemment avant. Mais quand, dans le rapport lui-même, on parle de multiple discrimination. On avait donc progressé dans notre réflexion dans le cadre dans le cadre de l'élaboration du rapport, dans le cadre des travaux, du groupe de travail. Oui, oui. Mais c'est normal aussi qu'il y ait des frictions à travers des mouvements militants. Puis, je veux dire, il ne faut pas se surprendre de ça. Puis, il ne faut pas faire le reproche. Oui, mais vous entendez pas vous-même. C'est un petit peu comme des gens, on entend ça des fois par rapport aux Autochtones dans tout le mouvement de réconciliation. Oui, mais ils chicanent entre eux autres, puis ils ne savent même pas entre eux autres. Ben oui, mais... C'est la même chose au Québec, c'est la même chose au Canada. Mais on exige de gens qui souvent ont des revendications à faire, qu'ils parlent d'une seule voix parce que c'est moins compliqué pour ceux qui sont en position dominante. Mais c'est très simple, c'est du choc des idées que finalement émergent émergera une société meilleure. Il ne faut pas avoir peur des débats, puis il ne faut surtout pas exiger des sociétés qui pensent de façon... monolithique.
Je ne peux qu'être en accord avec ça, effectivement. Puis c'est super sain aussi, puis ça ne fait que rendre justement les revendications plus fortes aussi à la fin et plus inclusives. Donc, non, définitivement. Mais d'ailleurs, ça m'amène un peu à revendication, pas nécessairement, mais juste pour revenir sur le rapport des assises en français. Pourquoi d'ailleurs, hein? Je me suis toujours demandé, je ne sais pas si vous avez la réponse à ça, mais pourquoi ça s'appelle les assises?
Les assises?
Ouais.
En fait, bon, le rapport des assises, c'est une traduction.
Oui.
Le titre, ça a été « Touchstones for Change, Equality, Diversity and Accountability ». Et « Touchstones » parce que les solutions proposées, en fait, les recommandations du rapport sont des étapes pour en arriver à une profession inclusive. Je dis, c'est ça l'idée de touchstone, c'est des quand on saute d'une pierre à l'autre pour se rendre quelque part. Et ça représente. Il y a eu beaucoup de discussions sur le titre du rapport. Ça, c'est sûr. Je veux dire, il y a eu beaucoup de discussions. Mais ça, et c'est des étapes vers le changement. Parce que l'objectif, c'est un objectif qui est très large. Quand on dit éliminer la discrimination ou aller vers une société plus égalitaire, là, je veux dire, tu peux pas mettre un doigt sur ben ça, quand on va faire ça, on va avoir éliminé la discrimination ou on va avoir atteint nos objectifs d'égalité. Alors, ça démontre le mouvement, ça démontre Touchstone for Change, c'est l'idée du mouvement. Et pour c'est égalité, diversité, responsabilité, accountability, on ne parlait pas encore d'inclusion. C'était pas là, dans le discours ambiant, si on veut, mais il y avait quand même égalité, diversité. Et responsabilité, ben c'était pour dire que nous avons tous des responsabilités par rapport à ces changements-là, puis à cette démarche-là. Et il faut se responsabiliser. Si on ne se responsabilise pas, si les personnes, les entités, puis les gens en place ne se responsabilisent pas et ne se sentent pas responsables de ces questions-là, il n'y a rien qui va se passer. Parce que, je veux dire, le but, quand on a commencé les travaux, Mme Wilson avait mis la table très rapidement. Le but, c'est pas, on n'est pas là pour documenter la discrimination. On le sait qu'elle existe. On ne va pas démontrer qu'il y a de la discrimination. On ne va pas faire des tableaux sur les salaires. C'était pas ça le but. Le but, c'était d'identifier ce qui structurellement dans la profession et donc dans la société favorisait le maintien de la discrimination. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour changer ça? Fallait que le rapport soit... Le but du Task Force, Mme Wilson, c'était qu'il soit orienté vers des solutions. On ne voulait pas que le rapport finisse par des constats. Ce n'était pas ça le but du rapport. Le rapport, c'était de dire, voici des pistes de solutions, des actions, de ce qu'on doit faire de façon concrète pour éliminer la discrimination dans la profession juridique. Sinon, ça aurait été un autre rapport qui aurait été tabletté.
Ben c'est ça. On le constate, puis qu'est-ce qu'on fait?
Ben oui, on le sait que c'est là. Les femmes le vivent, on le sait que c'est là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on sait c'est quoi la dynamique de la discrimination? Parce que c'est sociétal, hein? Je veux dire, c'est pas propre à la profession juridique, là, la discrimination contre les femmes, les minorités. C'est pas propre à la... Je veux dire, en ce sens-là, la profession juridique est très représentative du reste de la société. Et moi, je pense que la communauté juridique, en tant que communauté, ou les femmes juristes, en tant que groupe de femmes juristes, pourraient s'impliquer plus au niveau de la société. On est dans une position unique pour interpeller la société, proposer des solutions, on a des connaissances uniques. Puis tant que la société ne changera pas, je veux dire, la profession juridique va suivre. La profession juridique ne peut pas changer toute seule.
Non, c'est ça. Ou changer toute la société, tu sais. Il faut que...
C'est un petit peu dans ce sens-là qu'il y a une des recommandations sur les petits cabinets. Qui était que les femmes en petit cabinet ou au solo puissent aller piger dans le régime enrichi d'épargne retraite pour financer, pour trouver un revenu d'appoint dans le cadre de leur congé de maternité. Comme on fait pour acheter une première maison, qui est un incitatif à économiser pour ta retraite. Si tu n'achètes jamais, ben écoute, donc ça reste là. Mais si tu veux prendre de l'argent dans ton régime enregistré d'épargne retraite pour financer ta première maison, pour t'aider, te donner ce levier économique-là, tu le peux, puis après ça, tu rembourses sur une période de 10 ans. Mais pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose? Quelqu'un qui est à son compte, qui a un manque à gagner financier avec exactement les mêmes conditions. Et ça, c'est une mesure qui aide toutes les femmes dans la société qui sont à leur compte. peu importe ce qu'elles font et qui encouragent en même temps l'épargne, parce que tu ben là, je vais mettre ça dans un régime enregistré d'épargne retraite, j'ai pas d'enfant ou j'ai pas besoin de m'en servir, ben ça sera là, sinon je pourrais m'en servir puis le remettre. Je veux dire, c'est une magnifique, c'est un filet de sécurité. Mais on est toujours, l'État pense toujours en termes de développement économique, mais pense pas à le faire pour financer les que les femmes puissent financer à même leur propre argent, là, quand même, leur congé de des congés de maternité. Bon, je déteste le mot congé de maternité parce que c'est tout sauf un congé.
Oui, c'est ça. Oui, je comprends.
Ne sens pas de le reposer, là. Il faudrait trouver un autre mot, je ne sais pas lequel. Là. Leur absence parentale.
Leur absence du travail, exactement. C'est leur obligation.
Voilà, de quelque chose. Il faudrait trouver quelque chose. Il faudrait trouver le mot juste. C'est ça. Cette intersectionnalité.
Oui, c'est ça. Exactement.
Le début de la vie familiale, puis la conciliation familiale et professionnelle, je ne sais pas trop.
Il doit y avoir un mot, là, c'est sûr que ça doit exister maintenant. Mais ouais. Non, mais est-ce que ça a été appliqué?
Non, non, parce que ça dépend des gouvernements. Ça dépend des gouvernements.
Ah, c'est ça.
C'est une mesure qui viendrait des gouvernements. Moi, j'étais bien fière de cette petite mesure-là. Je la trouvais bien beau.
Ben non, c'est une super idée, là. C'est une super idée.
Mais qui sert à tout le monde.
Mais oui, non, c'est ça.
Les avocates pour être des leaders là-dedans dans et qui sert vraiment à l'ensemble de la société. Puis ça pourrait ne pas être limité non plus aux femmes, là.
Ben exact, non, mais c'est ça, j'allais dire, ça peut aller à tout le monde. Puis c'est juste.
T'as raison de le limiter aux femmes, là, c'est ça, oui.
Non, non, mais j'aime ça. Puis en fait, c'est la preuve que le rapport, en fait, avait des recommandations qui allaient au-delà, en fait, un peu comme vous dites, là, au-delà de la profession juridique, puis qui va servir à toute la société au final. Puis même le rapport, des fois, je pense que ces constats-là peuvent être généralisé à plusieurs milieux là, et pas seulement le milieu juridique. Là. Je pense pas qu'on est les seules femmes qui sentent une discrimination. Là. C'est les avocates. Là, je pense qu'on parle avec d'autres femmes dans d'autres milieux. Le milieu artistique, c'est en est un aussi qui vit aussi ça. Donc, je pense que ça, c'est un rapport pour ça super pertinent pour plusieurs professions, pour plusieurs aspects de la société. Et en fait, je me demandais aussi, parce qu'on a beaucoup parlé d'anglais, mais comment il avait été reçu au niveau dans la, que vous étiez quand même bien impliqué dans le milieu juridique québécois. Donc, est-ce que vous avez vu un peu comment le rapport avait été reçu au Québec? Est-ce que ça a été bien reçu? Est-ce qu'il y a des gens qui se disaient, ben voyons, c'est quoi ça? au Québec et au Canada généralement, mais la réponse.
Il y a eu plus de réactions et de suivi au Canada anglais qu'au Québec. Ça c'est sûr. Premièrement parce que je pense qu'une des raisons, je dis premièrement, mais une des raisons, c'est que l'ABC n'a pas malheureusement le même taux de pénétration au Québec que dans les provinces du reste du Canada. Le Québec a toujours eu, au Québec, le barreau du Québec a toujours été, je dirais, plus que juste une corporation professionnelle. Par exemple, le barreau du Québec occupe un très grand champ dans la formation professionnelle. Très, très actif dans la formation professionnelle. Il y a un comité sur les femmes dans la profession depuis longtemps au barreau du Québec. Alors, le barreau du Québec occupe une place qui est plus grande dans la communauté juridique que dans les autres provinces, qui laisse moins de place peut-être à l'ABC. Alors, l'ABC a un petit peu plus de difficultés à pénétrer le marché au Québec. Faut dire aussi que la version française, en français du rapport est sortie un petit peu plus tard. Les pauvres traducteurs sont toujours les derniers vers lesquels on se tourne, là, puis c'est quand même un rapport de 200, il y a combien de pages? De 290 pages, là. C'était quand même pas rien à traduire. Ça peut-être pas non plus aidé. Par contre, je me rappelle pas de réaction négative au Québec aussi forte que dans le reste du Canada. Particulièrement au côté, particulièrement les recommandations relatives à la magistrature. Parce que Mme Wilson, c'est elle qui a rédigé sur le chapitre sur la magistrature. On a eu, euh, on, les autres membres du Task Force, on sait vraiment par respect pour un, sa connaissance que nous n'avions pas. Par respect à Mme Wilson, on a évidemment discuté de tout ça ensemble, mais c'est Mme Wilson. Puis Mme Wilson, elle avait consulté des collègues juges de façon... et elle n'avait pas transmis les résultats, c'est comme si je me souviens bien, là, ça n'avait pas été transmis aux autres membres du Task Force pour permettre que les juges puissent s'exprimer librement. Les juges avaient des réticences, auraient eu des réticences, on présume, à ce que leurs propos. Parler à Mme Wilson, c'est une chose. Parler à une jeune avocate francophone, criminaliste, féministe du Québec, c'en est peut-être une autre. Mais elle a fait certaines recommandations relatives dans la section sur la magistrature, entre autres qu'au fédéral, il y a des sanctions graduées en matière de déontologie pour des comportements qui sont des comportements dérogatoires, mais qui ne méritent pas la destitution. Parce que, je veux dire, entre rien et la destitution, bon. Et ça, là, ça a été mal reçu, là, mais de façon incroyable dans le reste du Canada. Il y a eu des caricatures de Mme Wilson dans des journaux, il y a eu des articles, il y a eu des lignes ouvertes. Moi, je me rappelle d'avoir participé à une ligne ouverte pour, je pense que c'était Radio-Canada francophone en Alberta. C'était sur l'heure du retour à la maison, puis des gens appelaient, c'est généralement des hommes qui disaient que ça n'avait pas de bon sens, que les femmes à la magistrature, c'était toutes des féministes biaisées, mais jamais t'as ça au Québec, là, je veux dire, j'avais jamais entendu un discours comme ça au Québec, là. Alors, la réaction, par contre, les réactions des femmes dans la profession au Canada ont été beaucoup plus enthousiastes qu'au Québec. Le rapport du Task Force au Québec n'a pas du tout... Puis là, je m'en suis rendu compte encore plus avec dans les années suivantes, quand on a célébré les 10 ans, les 20 ans, les 25 ans du rapport, où des fois, il y a eu des rencontres, des réunions, entre autres, à Vancouver, pour discuter à la Law Society, pour discuter du rapport, où il y avait quasiment 1000 avocats. Je veux dire, jamais on a eu ça au Québec, là. Je veux dire, je me rappelle d'être allée, c'était-tu les 10 ans du rapport? On était plusieurs membres du Task Force, je pense que c'était à Ottawa. Puis, on était allés après dans un restaurant, puis il y a des avocats, je me rappelle entre autres d'un avocat, un gars qui est venu nous voir, il dit « Est-ce que vous êtes les membres du Task Force? Mon Dieu, c'est un honneur de vous rencontrer! » Je suis là « Oh my God! »
Mais non!
J'en ai dit comme des rock stars, là, tu sais. Pas du tout au Québec, là. Il y a des gens qui ont parlé de ça au Québec qui ne savent même pas c'est quoi, là.
Mais non, je sais bien. Moi, j'en ai parlé à des amis avocates, puis avocats, ils ne savaient pas c'est quoi, là. Oui, c'est... puis des féministes, là, puis tout.
Oui, puis on a peut-être passé à côté de quelque chose. J'en suis peut-être responsable, peut-être que j'aurais dû prendre mon bâton de pèlerin, puis d'en faire la promotion, je sais pas. Je prends sûrement ma part de blâme dans ça, mais c'est clair que le taux de pénétration du rapport a été moindre. Ce qui veut pas dire que les idées ont pas progressé de la même façon au Québec. Ceci dit, le Québec est une société distincte. Je pense que le Québec est aussi une société distincte au niveau de son féminisme, de sa façon de s'engager dans ces luttes-là, où on a une approche beaucoup plus de petits pas et beaucoup plus inclusive, je pense, moins confrontante peut-être que dans d'autres provinces. Mais bon, il y a toute une analyse sociologique à faire relativement à ça, et je ne suis pas ni compétente ni douée pour le faire, mais c'est clair qu'il y a une différence d'approche.
C'est clair, mais vous l'avez quand même vu un peu, j'imagine, même dans la Task Force, la différence d'approche. Moi, je suis au National Association of Women and the Law, l'action, c'est quoi en français, la NFD, en tout cas, puis déjà, je le vois, la différence avec mes collègues québécoises puis et mes collègues canadiennes-anglaises. Le féminisme est différent, comme vous dites, on se rejoint et tout, mais très différent. Il y a des différentes approches.
Oui. Mais je pense qu'il y a différentes réalités aussi.
Aussi.
Il y a différentes réalités de discrimination vécues. Moi, ma théorie de pop sociaux à Saint-Saëns, c'est le féministe au Québec. Les femmes au Québec ont pris une place avec, entre autres, la Révolution tranquille. Fin des années 60, début des années 70. La Révolution tranquille, ça porte pas le nom de révolution pour rien, là. C'est un changement majeur dans la société, puis qui était un très grand mouvement laïque. Mouvement laïque qui venait aussi d'Europe à ce moment-là. Je veux dire, on n'invente jamais rien. Hein? Tous les mouvements, là, ça circule beaucoup, encore plus, autant que la COVID.
Aussi vite.
aussi vite que la COVID. Mais, ce mouvement-là de la Révolution tranquille au Québec, où on a vraiment changé profondément la structure de la société québécoise, où la religion prenait tellement de place. Puis la religion affectait tant les hommes que les femmes, là. Je veux dire, de différentes façons, mais tant les hommes que les femmes. Et ça coïncidait aussi en même temps avec la troisième vague du féminisme, qui est venue avec la pilule anovulante. La pilule anovulante, là, c'est au cœur du mouvement des femmes, de la troisième vague du féminisme, mais c'est ce qui a... À partir du moment où les femmes ont contrôlé leur corps, c'est devenu possible de contrôler leur vie. C'est majeur. Là. Nous autres, on est d'une génération où, la pilule anovulante, là, je veux dire, pour les jeunes femmes, c'est comme it's a given, là, mais je veux dire, il faut se mettre à ce que c'était avant. Alors, moi, je pense que tout ce grand brassage-là de la société québécoise, les femmes ont embarqué là-dedans, les femmes y ont pris une place qui leur a fait faire, je pense, un bond en avant. Et dans la nouvelle société, les femmes ont eu une place différente que dans d'autres sociétés, dans la nouvelle société québécoise. C'est un petit peu comme si les hommes s'en étaient pas rendus compte. Ils ont pas fait la révolution en même temps qu'ils n'ont pas réalisé que les femmes aussi ont fait la petite révolution en même temps. Puis regardez donc, on est là.
Hola!
Hola! Puis est arrivé un immense brassage sociétal qui a profité aux femmes, puis on a profité de la vague, puis je pense que ça explique peut-être un petit peu les différences. Mais ça, c'est de la pop socio à Saint-Saëns. Je soumette ça à M. Guy Rocher, qui aurait certainement une idée. Des idées beaucoup plus éclairantes.
C'est la chose, mais c'est quand même intéressant, somme toute. On comprend, là, que, tu sais, ça...
On comprend l'idée,
exactement,
c'est ça.
On comprend l'idée, puis on trouve ça intéressant quand même, somme toute. Puis je pense que c'est quand même vrai aussi, à certains points, là. Ouais.
Ça peut pas être tout faux.
Non, c'est ça. Je pense pas que c'est tout faux, effectivement. mais en fait, là, puisque ça, je veux pas non plus, ça tire à sa fin. On avait une heure avec vous, donc j'avais quand même une question que je voulais vraiment vous poser. Vous l'avez un peu parlé, mais bon, vous avez nommé notamment, le mandat du groupe de travail, c'était quoi? Il y avait des belles idées, on adore. Puis après ça, il y a eu beaucoup de recommandations qui ont été données pour ce mandat-là. Puis justement, comme vous dites, c'était des petits pas par petits pas. Donc maintenant, rendu en maintenant 2024, qu'est-ce que vous avez, que maintenant vous avez pris votre retraite? Voilà, vous avez bien vu la communauté juridique, l'évolution. Est-ce qu'il y a des choses du rapport que vous avez vu appliquer? Vous vous êtes dit, yes, ça vraiment, c'est une réussite. Puis est-ce qu'il y a des choses que vous dites encore à ce jour? Faudrait vraiment qu'on mette les bouchées doubles et qu'on s'y attaque.
Oui. Je pense qu'il y a des choses qui ont quand même grandement changé, ne serait-ce que les politiques de congés de maternité et maintenant de congés parentaux. Je veux dire, il y a 30 ans, là, un congé de paternité, là, c'était vraiment pas dans les cartes, là. Je veux dire, c'était pas... Et même les congés de maternité, moi, j'étais restée en vacante à 84, il n'y en avait pas. Aucun cabinet avait un congé de maternité. Puis même quand je suis arrivée au Jeunes Barreaux de Montréal, à l'époque, l'association de Jeunes Barreaux de Montréal, on n'était pas beaucoup de femmes sur le conseil. Et moi, ça me choquait, là. Les femmes choisissaient leur hôpital pour aller accoucher en fonction de la proximité avec le bureau, là. Je veux dire, on était encore à l'époque où tu revenais au bureau, si t'étais capable de revenir 3 jours après, tu revenais 3 jours après, là. Je veux dire, ça n'existait pas. Et quand j'avais dit aux jeunes barreaux à la JBM, j'ai dit, écoutez, il y a un problème. aucun bon sens. La première réaction, ça a été, oui, mais ça nous regarde pas. Ça fait partie de la vie privée.
Ah ouais.
Ça fait quand même pas si longtemps que ça. Bon. C'est quand même une époque, on va se rappeler, où même le fax n'existait pas. Alors, si on veut un ordre de développement technologique. Mais depuis
non, c'est quand même bon.
Moi, j'ai commencé à pratiquer, le fax n'existait pas. Là. J'attendais le facteur.
Ah oui, on est loin d'être.
C'était une époque bénie. Hein? Ouais. C'était vraiment une époque bénie. Le facteur arrivait, tu regardais l'enveloppe, ça vient de qui? Oh non, ça, je vais pas regarder ça tout de suite. Personne ne savait si tu l'avais reçu ou pas. Tu pouvais prendre le temps que tu voulais pour réfléchir. Tu dictais la lettre. La secrétaire la tapait, tu l'amenais, tu faisais des corrections. Ça prenait 2 semaines, répondre. Ça, c'est un autre sujet. Mais au niveau des congés de maternité puis des congés parentaux, puis je devrais pas juste dire maternité, mais des congés parentaux, on est à des années-lumière. Et ça, c'était quand même bien important, parce que ça, c'est un frein majeur. Alors là, maintenant, au moins, l'époque où tu te demandais, avez-vous l'intention d'avoir des enfants, puis que c'était un kiss of death, si tu disais oui, alors que c'était bien évident que tu es une jeune femme de 24 ans qui arrive, qui passe des entrevues ou des grands cabinets, tu voulais pas avoir des enfants, mais là, franchement.
Oui, c'est ça.
On posait pas la question aux garçons, évidemment.
Évidemment.
Mais ça quand même déblayé quand même pas mal de terrain. Et c'était peut-être une porte d'entrée évidente ou facile. Ce qu'on avait fait à Montréal, entre autres, c'est que le jeune barreau avait convoqué des seniors des grands cabinets de Montréal à une rencontre un samedi pour mettre cette question-là sur la table.
Mm-hmm.
C'est comme ça que ça avait été fait. Et ça avait eu lieu dans les années 80. Alors ça a été une progression. Je pense qu'une autre grande progression, c'est la diversité. En soi, que la profession soit plus diversifiée, c'est un grand pas en avant. Moi, je l'ai vu, là, parce que ça fait 40 ans que je suis dans la profession, et ça peut juste être un plus. Ça ne peut qu'être un plus qu'avoir une profession diversifiée. Maintenant, ça ne règle pas tout. Le fardeau qui est sur les épaules des avocats de la diversité est très lourd. Il est plus lourd que celui sur les épaules des avocates, des femmes avocates. Alors, il y a encore, de ce côté-là, il y a encore beaucoup, beaucoup de pas à faire. Quoi qu'on voit maintenant, il y a au gala des leaders de demain, il y a 2 ans, du jeune barreau de Montréal, il y a un cabinet qui avait gagné un des prix où ce ne sont que des avocates noires dans ce cabinet-là. Moi, ça m'a ému aux larmes, là. Puis elles peuvent en vivre, là. C'est pas tout de dire moi, quand j'étais jeune avocate, je voulais avoir un cabinet juste d'avocate pour faire juste du droit criminel en défense, pour représenter juste des femmes. Le problème, c'est la clientèle, hein. Il y a pas tant de femmes que ça dans le domaine. C'est une place où on veut pas qu'il y ait plus de femmes, là. C'est juste dans la criminalité où on veut pas que les femmes deviennent représentées également au niveau des accusés. Mais je pense qu'il y a des grands pas qui ont été faits. Maintenant, il reste encore là où on n'a pas beaucoup avancé, c'est dans l'exercice du pouvoir. Et pour que ce soit pour les femmes, que ce soit les avocats de la diversité, si on regarde le ratio de femmes qui sont des avocates seniors, qui sont les associés dans les grands cabinets, c'est pitoyable. Il n'y a pas d'autre mot, là. Mais moi, j'entendais, il y a 30 ans, où on était 30 % de femmes, ce qu'on se faisait répondre quand on abordait ces questions-là. Oui, mais là, c'est rendu, il y a déjà 50 % de femmes dans les universités. Bientôt, ça vous allez être non seulement égal, mais vous allez être majoritaire, puis il n'y en aura plus de problème. Puis on disait non. Les femmes, nous autres, on le sentait que c'était pas vrai, ça. Que c'était un piège. Parce que c'était un petit peu l'idée de, ben, j'ai pas besoin de vous préoccuper de ça. Ça va être réglé. Ça va se régler tout seul. Le problème va se régler tout seul. Oh, qu'on croit pas vraiment ça. Alors, ça, c'est vraiment, et c'est là que c'est difficile. C'est quand on arrive aux structures de pouvoir. C'est quand on arrive au pouvoir. Je pense que la rémunération est encore un gros problème. Pour toutes sortes de raisons, c'est toujours plus difficile pour les femmes d'avoir une rémunération juste, même dans la profession juridique. Un autre domaine où je pense qu'on n'a pas avancé tant que ça, c'est dans le domaine du harcèlement sexuel. et du harcèlement psychologique. Et à chaque fois, c'est un problème très, très particulier parce qu'à chaque fois qu'on essaie de mettre des mesures en place, on n'arrive pas à trouver les bonnes mesures à mettre en place, que ce soit une ligne anonyme de référence, elles ne sont pas utilisées, alors que le harcèlement sexuel et psychologique, et surtout le harcèlement sexuel, est systématiquement rapporté dans toutes les études, comme existant toujours. C'est un enjeu très particulier, le harcèlement sexuel. Puis, bon, ça a été plus mis, évidemment, sur la carte avec tout le mouvement MeToo. Ça a eu des impacts, mais dans la profession juridique, je pense...
Pas tant que ça, hein?
Non, pas tant que ça. Pas tant que ça.
Il y en a eu, mais tu sais, c'est vrai que ça reste c'est un très bon point, ça. C'est vrai que ça reste vraiment un enjeu. Puis je pense que ça vient aussi... Ça, tout est relié, hein? Mais tu sais, je pense que le fait que plus de femmes, ou en tout cas, plusieurs personnes sont confrontées à ça, puis qu'il n'y a pas de façon de le régler, bien, on ne va pas forcément continuer dans un cabinet où est-ce que c'est arrivé. Puis, tu sais, l'espèce de tout le monde le sait, mais personne ne fait rien. Ça aussi, c'est comme...
Oui, oui. Puis même dans le cabinet, c'est hoche-hoche. Puis évidemment, je pense qu'un autre domaine, malheureusement, où il faut encore mettre des efforts, c'est la conciliation travail-famille. L'Association internationale des femmes juges a tenu, durant les trois dernières années, des tables rondes auprès des avocats à grandeur du Canada, dans toutes les provinces. Et la conciliation travail-famille est encore au cœur des difficultés rencontrées. Parce que le congé maternité, c'est une chose, là, mais le congé maternité, c'est comme temporaire. Je veux dire, t'es pas en congé de maternité jusqu'à ce qu'il y ait 18 ans, là.
Non, c'est ça.
Congé de maternité, après ça, c'est la conciliation. Après ça, t'as l'étape de la conciliation. Et cette étape-là est toujours... Il y a toujours un paquet de difficultés, que ce soit dans les relations avec la magistrature, que ce soit avec les relations avec les collègues, que ce soit au niveau de la discrimination salariale qui s'ensuit, au niveau de la rémunération. Ça, c'est pas encore réglé.
Ouais, non, je m'en doute. Puis aussi, même l'idée, tu sais, maintenant, on sait aussi que famille, pour en plus, pour les femmes, souvent, on est premières répondantes aussi pour plaire avec une population vieillissante au Québec, notamment, mais au Canada aussi. Puis on est souvent les premières répondantes pour les parents, les plus âgés, les grands-parents. Donc, ça aussi, c'est cette conciliation-là de, tu sais, la famille, la au sens large.
La
aussi,
génération sandwich, là?
Ouais, exactement. Exactement.
Ça, c'est pas quelque chose généralement qu'on vit à 28 ans, là.
Non, non,
on
c'est ça.
Vit plus à 48, 58. Mais là, 58, il y a de moins en moins de femmes qui sont encore dans la profession à 58 ans. La rétention des femmes, c'est un autre enjeu majeur. C'était le but des tables rondes de l'Association internationale des femmes juges. C'est-à-dire, qu'est-ce que comme femmes juges, on peut faire pour aider à la rétention des femmes? Parce que si les femmes ne restent pas, ils ne seront pas nommées.
Exact. Non, mais c'est tellement un bon point.
Ça prend, pour avoir un banc diversifié, ça te prend une magistrature diversifiée, ça te prend des femmes qui restent. Puis la magistrature aussi a un problème de rétention, là. C'est un nouveau phénomène à grandeur du Canada, là, mais la magistrature commence à avoir un problème de rétention. La magistrature risque d'être un autre bastion. Mais toute la rétention, toutes ces difficultés-là, c'est encore très présent. Fait qu'on a encore, besoin de solidarité, d'action, d'énergie, de réflexion, d'écoute, beaucoup d'écoute. L'écoute va venir de la compréhension va venir le jugement va venir les solutions.
Oh! Bon, c'est excellent, ça!
On va boucler la boucle.
On boucle la boucle. Nailed it. Une excellente fin, en fait. Non, mais vraiment, merci beaucoup, honorable Sophie Bourque. Vraiment, c'était vraiment très intéressant de parler avec vous, d'avoir pris le temps aussi là, de nous rencontrer.
Je suis à la retraite. J'ai le temps.
Oh, mais quand même, je me doute que... ouais, mais vous êtes comme Bertha Wilson. Je suis pas mal sûre que les gens attendaient votre retraite pour vous demander plein de choses. Là. Fait que je pense que...
Je suis plus comme Tintin, en route, Milou, vers de nouvelles aventures. Allez, en route vers de nouvelles aventures.
C'était donc ma conversation avec l'honorable Sophie Bourque. Si vous désirez en savoir plus sur le rapport Les Assises et son impact sur la profession juridique au Canada et que vous êtes assez confortable avec la langue anglaise, nous vous conseillons notre mini-série de 4 épisodes à ce sujet, intitulé Touchstone's 30th Anniversary mini-series, sur notre autre chaîne balado, The Every Lawyer, à retrouver sur cba.org/podcast avec un S. Merci de votre écoute. Belle journée!
Vous écoutez Juriste branché, présenté par l'Association du Barreau canadien.